Bonjour, vous êtes en train d'écouter l'épisode 50 de Vivant, Intuition et signes de l'au-delà, avec Valérie Seguin. Vivant, ce sont toutes les trois semaines des conversations ordinaires mais inspirantes, singulières et rassurantes pour éveiller votre conscience. Mes invités ont accepté de partager leur histoire et avec eux, vous découvrirez que parler de la mort, c'est avant tout parler de la vie. Ici Teddy Brodley de Tranquillité.fr, je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast Vivant. Bonjour à tous et à toutes. Si vous avez déjà vécu un deuil, vous avez peut-être déjà eu la sensation d'être le témoin de phénomènes inexplicables, comme si des signes étaient évocateurs de la présence d'un proche disparu toujours à vos côtés. Difficile alors de savoir si ces signes sont réels ou une simple invention de notre esprit, et n'oublions pas cette petite voix intérieure qui semble nous susurrer à l'oreille pour nous montrer le chemin à suivre. J'ai donc demandé à Valérie Seguin, réalisatrice de 5 films qui questionnent notre rapport à la mort et auteure d'ouvrages sur notre intelligence intuitive et spirituelle, de partager avec nous son parcours et son expérience. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à mon échange avec Valérie Seguin. Bonjour Valérie, bienvenue dans Vivant. Je suis très content de t'accueillir. Comment ça va déjà ?
Écoute, super, je rentre de vacances. Donc. C'est plutôt cool, voilà.
Bon, très bien. D'ivoire, Valérie, pour commencer déjà et pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter ?
Alors aujourd'hui, je suis auteure et réalisatrice de documentaires spécialisés sur la spiritualité, qui est un sujet qui me passionne.
Vaste question, on va en parler. Du plus loin que tu te souviennes, comment ça a commencé ?
Alors, je dirais qu'il y a deux étapes. La première, c'est lorsque j'avais 30 ans. Moi, j'étais complètement fermée à tout ça. Je viens d'une famille qui est complètement athée et qui est complètement fermée à l'aspect spiritualité. Et il y a ma famille, il y a vraiment que la matière, que ce qu'on voit. Et j'étais très sportive et j'ai eu un problème de genou assez handicapant, avec un genou multi-opéré que j'arrivais plus à soigner, qui m'handicapait au quotidien. J'avais vraiment du mal à marcher. Et une amie m'a traîné parce que j'avais aucune envie d'y aller chez sa magnétiseuse.
Mmh. Et la parce fameuse que pour moi, magnétiseuse.
Voilà, parce que pour moi, c'était des charlatans. Donc, et en fait, cette femme m'a enlevé toutes mes douleurs.
Il fallait y aller quand même.
Ouais. Oui, ça faisait quand même 2 ans que je souffrais. Et puis surtout, elle m'a dit « Êtes-vous croyante ?» Je lui ai dit « Non, pas du tout. » Et elle m'a dit « Mais là, je viens de réparer votre corps énergétique. Vous aviez une cassure au niveau du genou. Et les corps énergétiques, pour moi, c'est l'âme. Mm-hmm. Et peut-être ce qui vous arrive aujourd'hui, c'est un message de votre âme pour que vous commenciez à vous occuper d'elle. »
Qu'est-ce que tu as réagi ? Ce moment, ça t'a fait quoi ?
Mais en fait, cette femme, elle venait quand même de m'enlever toutes mes douleurs en une séance. Alors, on était à la fin de la séance, je me sentais bien, je sentais bien qu'elle avait agi, qu'il y avait eu quelque chose. Et je lui ai fait confiance. Voilà. Et elle m'a dit, vous devriez regarder si vous êtes sensible à la spiritualité, lire des livres, étudier. Et elle a eu raison, parce que j'ai commencé ce qu'on appelle un chemin spirituel. Donc, à la fois intellectuel, c'est-à-dire lire des livres, et aussi intérieur, trouver la paix en soi. Mm-hmm. Et ça m'a passionnée.
T'as commencé par quoi, du coup, dans ce chemin ?
Alors, j'ai commencé par lire des livres
ouais.
Sur les religions. Je suis allée à l'Institut catholique de Paris, j'ai étudié les religions, que d'accord. ce soit la religion juive, catholique, bouddhiste, musulmane. Mm-hmm. J'ai pris plusieurs cours.
Ouais.
Et puis, parallèlement...
Vas-y, j'allais te demander, qu'est-ce qu'il y a trouvé ?
Une culture générale. Une culture générale, c'était pas toujours facile de suivre parce que j'avais aucune culture religieuse. Donc, finalement, j'ai trouvé que c'était plus facile pour moi de lire des livres et de le faire à mon rythme. Voilà, je préfère lire des livres d'experts. Et comme ça me passionne, lire des livres sur la spiritualité, je dirais que ça nourrit mon âme. Donc, ça me passionne.
D'accord.
Et là, je prends mon temps. Voilà.
Ok. T'as trouvé des points communs dans toutes les religions ?
Oui, tout à fait. C'est ça qui est intéressant. Ouais. C'est qu'effectivement, ce chemin spirituel dont je parle, de trouver la paix en soi, c'est vraiment ce qui, euh, c'est, c'est comment aller à son cœur, en fait. Hein. Que ce soit la religion juive, où le cœur, c'est sur l'arbre de vie, c'est Tiferet, c'est la beauté. Que ce soit la religion catholique, évidemment, Jésus nous enseignait de la paix du cœur. Et l'islam, le mot islam, c'est la paix. Donc pour moi, oui, il nous propose tous, il nous invite tous à trouver cette paix en soi.
D'accord. Et après ce travail de lecture, à l'époque, à 30 ans, tu étais sportive, très sportive. On a déjà discuté un petit peu tous les deux. Tu travaillais déjà dans le monde de la finance à l'époque ?
Oui, tout à fait.
Ça faisait combien d'années ?
Ça faisait déjà 8 ans, je crois, quelque chose comme ça. J'étais à l'école de commerce et ensuite j'ai travaillé dans la finance.
D'accord. Ça a évolué comment par la suite, du coup, après cette lecture ?
Après, j'avais envie d'avoir une expérience entrepreneuriale, donc j'ai repris une entreprise, en fait, que j'ai gardée 2 ans et que j'ai recédée. Et ensuite, j'ai commencé à... Je m'intéressais à tout ce qui était psychologie. J'ai commencé à faire j'ai fait du conseil en management et en stratégie commerciale. Finalement, c'était de la psychologie appliquée à la motivation ou à la vente.
D'accord.
Voilà, donc pendant 10 ans, j'ai fait du conseil en des formations. Et puis, il y a une autre, donc je disais, il y avait 2 étapes dans mon chemin spirituel. Et la 2e étape, c'est quand mon père est décédé.
D'accord.
Et ça, c'était il y a 8 ans.
Ok.
Mon père, en décédant, m'a prouvé que l'au-delà existe parce que j'ai reçu énormément de signes de sa part.
Quand tu parles de signes, tu parles de quoi ? Tu l'as entendu ? Tu l'as vu ? Tu l'as ressenti ? Tu as ressenti autre chose que lui-même ? Enfin, c'est quoi ? De quelle façon ça s'est manifesté ?
Alors, ça a été d'abord un ressenti extrêmement puissant parce que j'étais dans une... Quand mon père est décédé, je suis allée à l'hôpital et je me suis retrouvée face à son corps. Et très rapidement, j'ai ressenti une joie intérieure et une force intérieure qui était anormale. Imaginez le plus beau moment de votre vie. Généralement, ça dure quelques minutes, quelques secondes, une joie intérieure intense. Et bien moi, cette joie intérieure, elle n'a fait que grandir et elle a duré 3 jours et demi. Donc très rapidement, j'ai compris qu'il se passait quelque chose d'anormal. Et que j'étais la seule à ressentir ça. Mes proches ne le ressentaient pas. Et j'étais presque obligée de me cacher pour qu'ils ne voient pas ma joie, en fait, parce que c'était anormal. Et en plus, mon père était mon seul parent, donc bien sûr, j'aurais dû être horriblement triste. Et au bout de 3 jours et demi, d'ailleurs, j'étais triste. Ce phénomène a disparu. J'ai commencé ce qu'on appelle le deuil. Ça a été extrêmement fort. Et puis, il y a eu aussi des messages. Il y a eu aussi des messages qui disaient « dis-le, appelle un tel, dis-le ». Voilà, je savais que ce n'était pas mon mental, donc je savais que c'était intuitif. Ce n'était pas ma voix à moi, ce n'était pas mes messages à moi.
C'était voix pour autant ? Ou c'était comme des mots qui s'impriment
dans
ton esprit ?
Des mots
qui
s'exprimaient.
Ok.
Et puis, j'ai eu ce ressenti énergétique où je me sentais enveloppée d'amour. Et pour moi, l'âme, c'est de l'énergie. Et je me suis dit, son âme, donc son énergie, est venue se mettre sur la mienne. Et j'ai même eu cette réflexion. Merci papa, c'est le plus beau et le plus grand des cadeaux, parce que quelque part, il m'a prouvé qu'il continue à vivre. Mais en même temps... j'ai dit aussi, mais papa, va falloir que tu me laisses vivre ma vie. C'est-à-dire que j'ai eu peur, si vous voulez, de combien de temps durerait ce phénomène. J'avais entendu des cas de possession et je me suis dit, ben non, je ne suis pas possédée parce que c'est moi qui pense. Ce n'était pas, c'était pas mon père qui pensait à travers moi. C'est moi qui pense. Mais clairement, il y avait quand même cette énergie qui bougeait sur moi. C'était bizarre, hein. Oui, c'était bizarre. Par exemple, je ne voulais plus serrer la main parce que je considérais que mon père, l'énergie de mon père était sur moi, en fait.
Ok.
Et donc j'avais même du mal à me rapprocher de personne parce que je savais que mon père m'accompagnait. Donc c'était quand même très étrange.
Et t'en étais sûre ?
Ah oui.
À aucun moment tu t'es pas posé le doute en te disant
Non, mais,
et qu'est-ce qui m'arrive exemple, est-ce que je deviens folle enfin, tu vois, un truc
non,
un peu comme
non,
ça.
Non, pas du tout. Ouais. Non, non, parce que, bon, d'abord, je suis vraiment irrationnelle. Enfin, je suis quelqu'un de très posé, de très, très rationnel.
Bah, j'allais te dire justement.
Oui, mais justement, j'ai vite compris que ce phénomène était anormal. Que la joie et la force que j'avais étaient anormales.
Il y a eu des synchronicités. Moi, j'entends souvent parler des synchronicités où on lit souvent, le mot revient souvent, de synchronicités ou de chansons ou de choses qui passent. Tu es en voiture et puis tu vois quelque chose qui t'évoque. Ou...
J'ai eu une synchronicité très intéressante qui, pour m'indiquer mon chemin de vie justement après le décès de papa et après la sortie de mon livre.
Okay.
Le Forum 104, qui est un lieu interspirituel à Paris, où j'étais bénévole, m'a proposé de faire une soirée, enfin, de faire de parler du sujet de mon livre, de faire une conférence sur mon livre.
Okay.
Et puis, ils font leur agenda un an à l'avance. Donc, les dates sont, il n'y a pas beaucoup de dates de possibilités. Et ils me disent, la seule date possible, c'est le 4 octobre. Je lui dis, bah, super, parce que le 4 octobre, c'est l'anniversaire de mon père. C'est sa date d'anniversaire. Et elle me rappelle une demi-heure après et elle me dit, Valérie, je suis vraiment désolée, mais le 4 octobre, ça ne fonctionne pas, je n'ai pas fait attention, la salle est prise. La seule date possible dans l'année, c'est le 19 mars. Et là, je lui dis, c'est le 19 mars, c'est incroyable, c'est mon anniversaire.
D'accord.
Voilà. Et en général, je n'aurais pas accepté de faire de faire une conférence sur la mort le jour de mon anniversaire. J'aurais plutôt eu envie d'être tranquille. Mm-hmm. Mais comme je me suis dit, parce qu'il y avait cette synchronicité, je me suis dit, bon, ok, ça veut dire que c'est mon chemin et que je dois le faire. Voilà. Et le 19 mars, finalement, nous l'avons fait. C'était pas une soirée, c'était un après-midi. Nous l'avons fait le samedi après-midi. Ça durait 3 heures. Il y avait une météo fabuleuse, merveilleuse à Paris. Et on a eu un monde, on a eu énormément de monde. Alors qu'un samedi après-midi, avec un beau temps, on aurait dû avoir personne. Et ça nous a montré, je dis nous parce que il y a quelqu'un qui m'a aidé à co-animer cette session. Mm-hmm. Ça nous a montré que, en fait, il y avait un vrai besoin. Les gens avaient besoin de parler de la mort. Et c'est suite à cela, d'ailleurs, qu'on a mis en place des groupes de parole sur la mort. Et ça fait 5 ans que je co-anime des groupes de parole sur la mort au Forum 104.
Ok. Quand tu dis les gens sont curieux de parler de la... Enfin, c'est de la curiosité, c'est une nécessité, c'est un besoin ou c'est juste on ouvre la parole et en fait, bah, à partir du moment où tu ouvres la parole, les gens, ils sont prêts à en parler de ça.
Alors, dans nos groupes de parole, on avait de tout, en fait. On avait des jeunes qui venaient parce qu'ils étaient curieux, parce qu'ils s'intéressaient à la mort, d'autres parce qu'ils avaient peur de la mort, d'autres parce qu'ils avaient un proche qui allait mourir, d'autres parce qu'ils venaient perdre un proche. Et puis encore des personnes plus âgées qui venaient parce qu'ils se disaient « je vais bientôt mourir ». Donc vraiment, on a eu tous les cas de figure dans nos groupes de parole.
Okay.
Et avec les groupes de parole, il y avait effectivement, donc la parole était libérée, et il y avait aussi un apport de connaissances, c'est-à-dire tout ce que j'avais appris en enquêtant aussi sur le passage, il y avait quand même tout un apport de connaissances sur comment finalement effectuer ce passage sereinement. Ce que nous apprennent les expériences aux frontières de la mort, que ce soit les expériences de mort imminente, les sorties de corps, les visions des mourants, les contacts médiumniques sur la mort, nous permettent finalement d'appréhender ce passage sereinement. Et c'est pour ça que j'ai fait un deuxième film sur la mort, qui s'appelle « Et si la mort n'était qu'un passage, comment s'y préparer ?» où il y a une dizaine de médecins soins palliatifs, de psychologues, d'aides-soignants, d'infirmières, et de médiums, donc à la fois dans le film, il y a des expérienceurs et du personnel soignant, et qui nous expliquent justement comment se préparer, que nous enseignent justement toutes ces expériences aux frontières de la mort. Donc c'est grâce à ces groupes de parole qu'on a développé ça, et j'ai fini par faire un deuxième film sur la mort.
Me viennent deux questions à partir de là. Question numéro 1, tu parles d'expériences médiumniques. Tu me parles de tout ça. C'est des choses que toi, au-delà du vécu avec ton papa, est-ce que toi, par la suite, tu as eu d'autres expériences, d'autres perceptions, d'autres choses comme ça ? Il y a eu des choses qui se sont passées ?
Alors, je n'ai pas de don médiumnique. Chaque fois que mon âme a voulu me faire passer un message. Ok, j'ai eu l'intuition, j'ai eu le message. Et sinon, c'est passé effectivement par pour contacter des défunts. Je n'ai jamais eu un défunt en direct. C'est toujours passé par quelqu'un. Okay. Je n'ai pas cherché ces contacts médiumniques. Ils sont venus quand je prenais par exemple un café avec un médium, puisque j'en ai rencontré pour mes films. Mm-hmm. Et bien à chaque fois, par exemple, mon père venait. Alors, ce qui est intéressant, c'est ma première expérience avec un médium. J'étais allée filmer à Dijon,
d'accord,
auprès de l'association La Voix du Cœur. J'étais okay. allée filmer, je voulais filmer des participants, en fait, des personnes dans le public.
Ouais.
Et j'avais amené une caméraman. Et ce jour-là, il y avait une médium qui était Florence Hubert qui passait. Il y avait 200 personnes dans la salle et elle travaillait sans photo. C'est-à-dire que les défunts venaient à elle et elle donnait les prénoms et elle décrivait le défunt. Et puis la personne qui reconnaissait son défunt levait la main. Et à un okay. moment, elle dit alors là, j'ai Anne-Marie, toute petite, une jupe à fleurs et un haut complètement dépareillé à carreaux. Elle me montre le cœur, elle est décédée il y a à peu près 2 ans. Et ma caméraman lève la main et dit c'est ma grand-mère.
Okay.
Et c'est moi qui avais amené la caméraman. Et ça, ça m'a bluffé. Parce qu'il ne pouvait pas y avoir tricherie. En plus, on était au fond de la salle. Florence ouais. Hubert ne pouvait pas nous voir parce que c'était vraiment mis au fond. Il y avait 200 personnes, il y avait beaucoup de monde. Elle ne nous voyait pas. Donc, elle ne pouvait capter aucune information. Donc, pour moi, je me suis dit, wow, la médiumnité, c'est incroyable. Ça a été vraiment mon premier contact avec la médiumnité.
Autre contact ? Tu allais dire un premier et puis après, ça amène un deuxième, ça.
Alors, oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, quand... chaque fois que j'ai pris un café, mon père est venu me délivrer un message. Mais j'ai eu à Vichy, j'étais à Vichy pour une projection de mon film « Et si la mort n'existait pas mmh. ». Et après ma projection, il y avait une médiumnité publique mmh. avec la médium Sylvie Franck. Et ensuite, c'était en soirée, on était toutes les deux dans le même hôtel. Ils nous avaient logés toutes les deux dans le même hôtel et elle me dit « Oh ben, allons prendre un verre, il devait être 11h du soir, allons prendre un verre, un dernier verre avant de coucher. » Et elle me dit « Il y a ton père. » Je dis « Ah ben oui, mon père,
c'est un habitué. »
C'est un classique, voilà. Ça ne me surprend pas. Et puis elle me dit « Et il y a ta mère. » J'ai dit « Ah non, là ma mère, ce n'est pas possible. Ma mère est décédée il y a 50 ans et mmh. je n'ai jamais eu le moindre signe d'elle. Donc ça, ce n'est pas possible. » Et elle me dit, mais si, d'ailleurs, elle t'autorise à utiliser sa photo. Alors, effectivement, 2 jours avant, j'avais scanné sa photo dans l'imprimante pour la mettre dans mon deuxième film. Et si elle n'était qu'un passage. Et puis ensuite, elle me dit, c'est qui, Pipette, Poupette ? Je lui dis, bah, ça, c'est le surnom de ma fille. C'est quand même pas un surnom commun.
Ouais.
Et elle me dit, ta fille, ça va être compliqué à l'école, mais tout ira bien. Effectivement, à l'époque, je ne savais pas encore, mais après, ma fille, on l'a déscolarisée, on lui a changé sa scolarité, et maintenant tout va bien. Et ensuite, elle m'a donné le prénom de son demi-frère. Donc, vous voyez, elle m'a apporté 3 preuves.
Okay.
Et après, j'ai demandé, mais pourquoi j'ai jamais reçu de signe. Pourquoi j'ai jamais rien ressenti depuis 50 ans.
Ouais.
Et elle m'a dit, mais si, elle était présente, à 12 ans, t'as fait ça, à 16 ans, t'as fait ça. Voilà, donc ça a été quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Ça m'a aussi apaisée, parce que voilà, ma mère est décédée il y a 50 ans, j'étais petite, donc c'était quand même toujours quelque chose qui était un peu... c'était une blessure, quelque part une blessure d'enfance, et ça m'a beaucoup apaisée, en fait. Voilà, et je remercie ce contact médiumnique qui était assez, assez incroyable. Et puis, ce n'est pas fini, parce qu'après, elle me dit, et maintenant, il y a ta grand-mère qui est là.
Ah, bah alors.
Alors, je demande laquelle, et elle me dit, celle qui a les jambes bandées. Effectivement, ma grand-mère maternelle, donc la mère de ma mère, était alitée les 6 derniers mois parce qu'elle s'était cassée le fémur. Et donc là aussi, elle m'a délivré un message. Et puis surtout, ce qui était joyeux, c'est que ma grand-mère avait retrouvé sa fille. Mmh. Et quelque part, mon père aussi avait retrouvé sa femme. Et voilà. Donc c'était et je suis convaincue qu'on retrouve, que quand je passerai de l'autre côté, je retrouverai mes proches décédés. Voilà, ça j'en suis convaincue. C'est ce que nous disent les expérienceurs de ceux qui ont vécu des expériences de mort imminente. Mais cette médiumnité-là, voilà, où je les ai eus tous les 3 en même temps, me convaincre que on retrouvera, je les retrouverai quand je passerai moi-même de l'autre côté.
T'as utilisé le mot don. Est-ce que la médiumnité, alors je vais plutôt enlever le mot médium, parce que du coup médium dans l'imaginaire collectif de beaucoup, il y a ce côté un peu des fois Madame Irma et compagnie, alors qu'en fait c'est pas ça.
Alors je voudrais juste dire quelque chose. Je suis contre la voyance. Je suis contre. D'accord. Je suis contre la voyance. Je ne suis contre essayer de deviner comment ça va être dans le futur. En revanche, je suis pour la médiumnité, le contact avec les défunts. Mais ça s'arrête à ça. Pour moi, la médiumnité, c'est contact avec les défunts.
Je suis d'accord.
Rien d'autre. Voilà. Mais je suis pas. Pour moi, on doit vivre au présent et trouver soi-même. J'ai consulté une seule fois une voyante et en fait, elle m'a finalement. J'ai suivi une piste à cause d'elle, pas à cause de ce qu'elle m'avait dit. Et après, j'ai regretté. Donc, pour moi, je suis vraiment. C'est à nous-mêmes, en nous, de faire nos choix pour le futur.
Et voilà, et c'est justement très important que tu le dises, parce qu'effectivement, beaucoup de personnes pourraient se dire, au premier abord, faire la confusion, si tu veux, entre la médium, c'est absolument, tu vas consulter un médium absolument des fois pour essayer de deviner l'avenir ou ton futur ou de savoir à l'avance, et c'est pas du tout l'idée. C'est pas du tout l'idée. Et etc. Mais est-ce que, alors du coup, si j'enlève le mot médium, parce qu'au final, quelque part, le fait de canaliser un message, parce qu'au final, c'est finalement ça, les choses, les ressentis que tu as eu, etc., il y a des messages qui te viennent. Donc, tu canalises une information, énergétiquement parlant, qui vient d'un autre espace qu'on ne peut pas percevoir. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, le mot don, il est vraiment approprié? Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas médiums professionnels qui disent, et j'en fais partie, avoir des perceptions, des messages, des choses qui viennent comme ça spontanément, sans se dire « j'ai un don », puisque ce don n'est pas inné, il te tombe dessus. Un jour où tu ne l'as pas décidé, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre de capacité inexplorée? Là, je reprends le côté un peu scientifique. Toutes les neurosciences, les neurosciences, physique quantique et tout, il y a un champ des possibles qui s'ouvre fondamental avec la physique quantique aujourd'hui. Est-ce que quelque part, c'est pas une possibilité de notre cerveau, qui est un émetteur ou un truc, et qui capterait quelque chose, et on l'aurait peut-être plus ou moins, enfin, quelque part tous, de base, mais on s'autorise, il y a des filtres comme le cerveau fonctionne énormément à filtrer des informations. Est-ce qu'on n'utilise pas assez notre cerveau, quelque part? Ces fameux 10% qu'on utilise et puis le reste, on ne l'utilise pas. Est-ce que quand on utilise les autres 10% ou que ça se débloque, il n'y a pas quelque chose à aller chercher de cet ordre-là?
Il paraît, effectivement, tous les médiums disent « oui, mais ce n'est pas un don, tout le monde a cette capacité ». Personnellement, je ne l'ai pas. Voilà, ça fait quand même des années que j'explore, que je pense que j'ai accès à mes ressentis corporels, j'ai accès à mon âme, j'ai accès à beaucoup de choses. Et donc, je suis quand même déjà allée assez loin dans mon cheminement intérieur. Mais non, je n'ai pas cette capacité. Donc, pour moi, ça reste un don. Parce que je suis quelque part admirative de ceux qui ont ce don et qui ont cette capacité. Moi, j'aimerais bien l'avoir.
Aujourd'hui, tu abordes à travers notamment ton dernier film, un thème du coup qui est fondamental, mais au final qui est relié avec tout ton parcours et tout ça, qui est celui de l'intelligence intuitive au travail. Qu'est-ce que pour toi l'intelligence intuitive au travail? Qu'est-ce que c'est?
C'est avoir accès à cette autre intelligence en nous, plus intuitive. C'est pour moi celle qui est créative. C'est de là que part la créativité, c'est de là que part les nouvelles idées. Et souvent, c'est très juste, en fait. Mes idées ou par exemple, je n'ai pas une rédaction, je rédige pas forcément de manière très fluide. Et pourtant, quand mon intuition, si c'est mon mental qui réfléchit à comment faire une phrase, eh bien la phrase, elle sera jamais très belle. Mm-hmm. Si en revanche, je vais faire du sport, ou je vais marcher en forêt, ou je fais autre chose, eh bien tout d'un coup, mon intuition va me sortir la phrase parfaite.
Ton intuition, du coup, c'est ton âme.
Ouais, oui. Alors, certains disent qu'effectivement, l'intuition, c'est le murmure de l'âme. Donc, pour moi, je crois effectivement qu'on a une autre intelligence en nous, plus profonde, plus et qui est tout à fait puissante et qui nous donne des idées, qui sont très justes.
Christophe Auré, quand il était passé dans le podcast, parlait de cette notion de conscience. Est-ce que toi, tu fais une distinction entre la conscience et l'âme ?
Non, je n'en fais pas. D'ailleurs, dans le film L'âme, à un moment, on dit qu'on l'appelle l'âme ou conscience, parce que les scientifiques, eux, utilisent le mot conscience, ils n'utilisent pas le mot âme. Mmh. Alors, il y a plusieurs mots, hein, c'est que ce soit l'âme, conscience, esprit, l'être, l'essence. Pour moi,
c'est un langage.
C'est uniquement du langage. Et là, en fait, on ne s'accorde pas tous sur le mot, et ça, pour moi, c'est intellectuel. En revanche, on s'accorde tous sur le même ressenti intérieur. C'est-à-dire, on ressent tous, quel que soit le mot qu'on lui donne, on ressent une paix, une joie intérieure et des messages.
Ouais.
Voilà. Et c'est, pour moi, c'est cette partie de nous qui est énergétique et qui, dans le film L'âme, les médecins disent que c'est nos corps énergétiques et que c'est cette partie de nous qui continue à vivre après la mort du corps physique.
Ok.
Voilà.
Donc, l'âme sait où tu dois aller. On est d'accord, du coup, puisque si c'est elle qui t'envoie les messages, ça veut dire qu'elle sait. Comment tu fais, du coup, toi qui dois aider des gens dans des entreprises où des fois les règles sont bien stricto, déjà strictes et tout ça, il y a beaucoup de rationalité dans tout ce qui est mis en place dans les entreprises en général. Comment on fait pour aider ces gens-là à s'ouvrir justement à cette intelligence intuitive et à se reconnecter à leur âme ou finalement se reconnecter à elle-même?
Alors déjà, l'Union européenne vient de financer un projet qui a démarré en janvier pour développer les compétences sensorielles, émotionnelles et spirituelles. Donc il existe une compétence spirituelelle justement pour développer l'intuition auprès des entreprises et auprès des universités, parce qu'elle est essentielle pour résoudre des problématiques complexes.
Donc, ça finance des programmes de formation ? C'est le but du jeu, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Absolument. Absolument. Il y a 4 pays qui sont qui travaillent sur ce projet. C'est avec l'Université catholique de Lyon et l'ANDRH, également l'Association nationale des directeurs de ressources humaines, et aussi d'autres entreprises, des grandes entreprises, qui travaillent sur ce sujet. Donc, pour moi, si vous voulez, ça va finir par rentrer. On parle des soft skills, et bien bientôt il y aura les soft skills. Ça rentrera dans le. Alors, ce que j'ai fait, c'est que dans le film, j'ai montré des chefs d'entreprise qui utilisent cette intuition, cette intelligence intuitive, et ils disent j'ai une autre intelligence en moi plus profonde qui me donne d'autres clés d'information, d'autres clés de réflexion, et qui viennent enrichir l'intelligence de mon mental.
Quand tu montres ce film-là, justement, aux chefs d'entreprise, c'est quoi les réactions que tu as derrière ? Les questions qu'on te pose à l'issue du film, lors d'une projection, c'est quoi qui revient ?
Alors déjà, je demande toujours un mot, voilà, s'ils peuvent exprimer un mot après la projection, et beaucoup disent « espoir ». Voilà, c'est un film d'espoir.
Okay.
Parce que ça montre. Je suis aussi invitée à. Dès qu'il y a un colloque sur le futur du travail, je suis invitée.
Ouais.
Avec ce film. Donc, ça montre que c'est le futur du travail. Que c'est à la fois l'intelligence du cœur. Parce que l'intelligence intuitive et spirituelle, elle englobe à la fois l'intelligence émotionnelle, l'intelligence du corps, l'intelligence du cœur, et l'intuition. Et à la fois aussi une notion de valeur, c'est-à-dire ça, le film montre aussi des entreprises qui sont sorties du système actuel et qui mettent aussi une partie ou même totalement leurs bénéfices au service de la société.
Donc on te dit le mot espoir.
Ouais.
Ces gens-là, ils sont, enfin, tu sais qui, enfin, comment dire, au-delà du fait qu'ils soient chefs d'entreprise eux-mêmes, mais quand ils viennent à une projection. Ils y viennent déjà pas. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher ? Est-ce qu'ils viennent parce qu'on les a invités ? Est-ce qu'ils viennent parce que. Enfin, je veux dire, en fait, ce que je cherche à savoir, c'est est-ce que ces gens-là sont plus ou moins initié ou curieux, enfin tu vois, initié quelque part à ces notions spirituelles?
Pas tous. Non, non, il y en a justement. Et la question qu'on me pose souvent, c'est mais alors, comment fait-on pour aller plus loin? Comment fait-on, voilà, individuellement, collectivement? Parce que le film, c'est beaucoup de témoignages, mais il n'y a pas de mode d'emploi. Et c'est pour cela que je fais un livre. En ce moment, je suis en train de finir un livre qui est un mode d'emploi.
Ok. Et du coup, tu leur réponds quoi à ces gens-là?
Dans le film, il y a quand même des clés, si vous voulez. Le problème d'un film, c'est que au début du film, je leur dis, n'hésitez pas à noter, à prendre des notes. Mm-hmm. Parce que si, dans le film, on parle d'intelligence émotionnelle, on parle de communication non violente, il y a des pistes, en fait, pour démarrer.
Ouais.
Et à la fin du film, je dis aussi, pour aller plus loin, voir le film, et si jamais n'existait pas, on est la censure, il n'y a pas la mort, et voir le film L'âme. Parce que, comme j'avais fait le film L'âme juste avant, sur comment aller à la rencontre de son âme, je n'avais pas envie de refaire un film sur les pratiques.
Oui, bien sûr. Ça,
donc,
d'accord.
En fait, à la fin, je dis, bah, pour aller plus loin, regardez le film L'âme.
Du coup, qu'est-ce que tu as envie de porter avec ce film-là?
J'ai envie de porter auprès du monde de l'entreprise et du travail, parce que ce n'est pas que l'entreprise, hein, c'est aussi le service public, c'est tout organisme, en fait, hein, où l'on travaille, qu'il y a des avantages à se tourner vers cela, en fait, à la fois individuellement, collectivement, parce que dans le film, on montre les chefs d'entreprise qui sont là-dessus. Par exemple, il y en a un qui dit... depuis que j'ai mis ça en place, il y a 2 ans, c'est 30% de turnover en moins. Je le refais cette partie. Il y a, par exemple, Olivier Muller dans le film qui nous explique que depuis qu'il a mis ça en place, c'est 30% d'absentéisme en moins, 50% de turnover en moins. Alexandre Pachuski aussi, avec Talentsoft, qui est quand même une entreprise de 600 employés, nous dit que c'est justement parce qu'on a mis ça en place que les résultats sont là. Mm-hmm. Donc, c'est à la fois agréable de venir travailler dans une entreprise qui cultive ses valeurs et qui met ça en place. Et voilà, c'est pour ça que je pense que c'est le futur du travail. Ça permet aussi d'éviter la souffrance au travail, les burn-out. Ça permet d'avoir une confiance, une paix intérieure, une clarté d'esprit. Mm. Donc, un meilleur discernement, plus de créativité, plus de cohésion d'équipe.
Et au-delà de ce qui se passe, du coup, et de ce que ça crée dans la bulle de l'environnement travail, du coup, ce qui est hyper intéressant, c'est tout ce que ça ne crée pas à côté. Tout ce qui ne rejaillit pas sur la vie personnelle de la personne. Si tu as un travail, tu vois, où tu ne te sens pas bien, c'est frustrant, etc., etc., consciemment ou inconsciemment, tu le rejaillis sur les gens qui t'entourent.
Oui, et puis aussi ça permet aussi à chacun de travailler sur soi aussi, parce qu'on dit que dans le film, qu'effectivement,
ça part de là, en tout cas.
Ça part de là, mm-hmm. Et donc ça permet aussi d'améliorer ses relations dans notre vie quotidienne, dans notre vie perso.
Pour finir, j'aime bien demander, moi, à chaque épisode, à mes invités, s'ils avaient des lectures ou des films ou des documentaires à partager ou des choses comme ça, voilà, avec les auditeurs, pour justement les nourrir un petit peu et satisfaire les plus curieux et les plus insatiables d'entre nous. S'il y en avait, voilà, peut-être qu'un ou même quelques-uns que tu souhaiterais partager, qui t'ont vraiment marqué, qui pour toi sont vraiment hyper... hyper important. Ça serait quoi?
Moi, je conseillerais d'aller, par exemple, à la FNAC hein, ou chez un libraire spécialisé et d'écouter son intuition parce que l'intuition va vous aider à choisir le bon livre. Voilà. Vous regardez, généralement, ils sont tous alignés et vous écoutez votre intuition et le bon livre arrivera à vous.
Je suis tellement convaincu par ça. J'achète tous mes bouquins depuis des années juste sur cette intuition-là. Et des fois, ça se manifeste juste par un... Alors, c'est subtil, des fois, c'est juste un truc qui t'attire l'œil vite fait, auquel tu ne portes pas forcément attention tout de suite, mais bizarrement, ça revient et ça te rappelle. Ou des fois, c'est spontané, et puis tu ne réfléchis pas, et puis c'est après, tu mentalises, tu dis « Ah bah pourquoi ?» Non, on verra bien. Et il ne faut pas mentaliser. Merci beaucoup. Si je devais te laisser le mot de la fin, bon, alors je te fais une parenthèse qui n'est pas une parenthèse en off, mais j'ai passé un super moment avec toi. Voilà, c'était vraiment chouette. Je te laisse le mot de la fin. Ça, c'était mon mot de la fin à moi, pour toi. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire?
Ben, moi aussi, je te remercie parce que j'ai trouvé que c'était fluide et simple. Voilà. Même si on est allé, on a abordé beaucoup de sujets. J'ai trouvé ça très fluide. Donc, merci beaucoup. Ben, et merci. Moi aussi, j'ai eu beaucoup de plaisir.
Merci à toi, Valérie. Merci beaucoup. Messieurs, dames, je vous dis à la prochaine. Et puis, Valérie, prends soin de toi. Et puis, à très bientôt.
À bientôt.
Salut. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aller liker, commenter ou partager cet épisode sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez également attribuer une note 5 étoiles à Vivant avec un commentaire sur Apple Podcasts et Spotify. Ça aide énormément Vivant à se faire connaître, comme vous le savez. Merci d'être de plus en plus nombreux à écouter le podcast, d'être toujours fidèles au poste. Parlez-en autour de vous, faites découvrir Vivant au plus grand nombre. Ça aide simplement à parler de la mort, de nos croyances, avec plus de simplicité au quotidien dans nos vies. Je vous donne rendez-vous dans 3 semaines avec Pierre Berner pour un épisode sur l'humusation. Et surtout, prenez soin de vous.